Laudetur Jesus Christus.
L'espérance n'est pas un vain mot, c'est une certitude parce qu'elle est fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Les mots du pape François ce matin lors de l'audience générale dans la salle Paul VI au Vatican. Nous y revenons juste après ces titres. Le Saint-Père qui a lancé par ailleurs un appel pour la Syrie à la fin de cette audience pour que le pays se reconstruise dans l'unité et au-delà des divisions. Dans ce journal, nous irons également dans la bande de Gaza où la situation sécuritaire et humanitaire de milliers de familles reste cauchemardesque. Et puis un 71e miracle officiellement reconnu à Lourdes. Nous irons également à la fin de ce journal au Brésil où des manifestants demandent la prison pour l'ancien président Jair Bolsonaro. Il est accusé d'avoir fomenté une tentative de coup d'État après sa défaite aux élections de 2022.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, l'espérance n'est pas un vain mot ni un vague souhait que les choses aillent bien, c'est une certitude parce qu'elle est fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Ce sont les mots du pape François lors de l'audience générale ce matin. C'est pourquoi le chrétien ne peut se contenter d'avoir de l'espérance, il doit aussi la faire rayonner, a-t-il dit aux fidèles lors de sa catéchèse, le compte-rendu d'Augustine Asta.
L'invocation avait un fond que aujourd'hui diremmo scatologico.
Achevant aujourd'hui son cycle de catéchèse sur l'esprit et l'Église, François a expliqué que l'appel au Christ ressuscité à caractère eschatologique exprime l'attente ardente de son retour à la parousie. Et aujourd'hui encore, affirme-t-il, l'Église le démontre à chaque messe, car animée par l'Esprit, elle n'attend pas seulement son retour final, mais sa venue quotidienne dans sa situation présente et pèlerine. Cet appel de l'Église est aussi comme un appel à l'Esprit-Saint, puisque, précise le pape, le Christ et l'Esprit-Saint sont inséparables dans l'économie du salut.
Christ et l'Esprit sont inséparables.
C'est l'Esprit qui est la source jaillissante de notre espérance, indique le souverain pontife, qui rappelle ensuite que cette espérance est une vertu théologale qui n'est aucunement en mouvant, mais plutôt une certitude fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses.
Le chrétien ne peut accontentarsi di avere speranza. Deve anche irradiare speranza.
Compte rendu signé Augustine Asta. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. Le pape qui, à l'issue de cette audience, a lancé un appel à la Syrie en pleine recomposition après la chute de Bachar al-Assad le week-end dernier. Le Saint-Père qui forme le vœu que l'on parvienne à une solution politique qui, sans conflit ni division supplémentaire, favorisera de manière responsable la stabilité et l'unité du pays. Ce matin, le nouveau Premier ministre syrien de transition, Mohamed al-Bashir, assure que la coalition au pouvoir garantirait les droits de toutes les confessions. Mohamed al-Bashir, qui dans un entretien au quotidien italien Corriere della Sera, appelle également les 6 millions de Syriens à l'étranger à rentrer dans leur pays pour reconstruire le pays. La Syrie également sujet de préoccupation pour les évêques de l'Union européenne. Dans une note publiée ce matin, la Comece fait part de son espoir d'une transition pacifique dans le pays. Elle exhorte le nouveau régime à, je cite, « rejeter le sectarisme et l'extrémisme tout en embrassant les contributions et les identités uniques des nombreuses minorités ethniques et religieuses qui enrichissent le Moyen-Orient ». Et puis cette nouvelle donne en Syrie, bien sûr suivie de très près en Iran, le parrain de l'ancien régime de Bachar al-Assad. La chute du Syrien n'affaiblira pas l'Iran, assure ce mercredi le guide suprême Ali Khamenei. Il ne fait aucun doute, selon lui, que ce qui s'est passé en Syrie est le résultat d'un complot des États-Unis et d'Israël, a-t-il encore assuré. C'est sa première prise de parole depuis le départ de Bachar al-Assad. À Gaza, la situation sécuritaire et surtout humanitaire reste dramatique. Plus de 2 millions d'enfants et d'adultes restent soumis aux bombardements et aux sièges israéliens, laissant la famine et les maladies se propager, notamment dans la région du Nord, totalement isolée et qu'Israël continue de vider de ses habitants. À Jérusalem, Valérie Ferron.
Les services médicaux et la défense civile palestinienne ne cessent de lancer des cris de détresse sur la gravité indescriptible de la situation dans la bande de Gaza, où plus de 2 millions d'enfants et d'adultes sont en danger de mort en raison des bombardements israéliens qui se poursuivent sans relâche, mais également du renforcement du siège qui laisse la famine s'intensifier. Selon l'Agence des Nations Unies OCHA, seules 4 boulangeries fonctionnent actuellement dans l'ensemble du territoire. La situation dans la région nord reste particulièrement désespérée. Les forces d'occupation israéliennes y poursuivent leur politique de destruction massive et d'expulsion des habitants. Quelques 5500 personnes ont ainsi été forcées de quitter 3 écoles de la ville de Beth-Laria ces derniers jours. L'armée israélienne resserre également son étau en Cisjordanie occupée, où elle poursuit ses incursions, imposant notamment un couvre-feu dans le village de Madama, près de Naplouse. Les forces d'occupation israéliennes ont à nouveau pénétré par ailleurs au cœur de la ville de Ramallah, où elles ont détruit un bureau de change. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et autre théâtre tragique de la guerre, souvent relégué dans l'ombre, le Soudan qui traverse la pire crise humanitaire de son histoire, selon l'ONG américaine International Rescue Community, basée à New York. La guerre civile qui a éclaté en avril 2023 a contraint 12 millions de Soudanais à l'exil. Et bien qu'il n'abrite qu'un pour cent de la population mondiale, le pays compte 10% de toutes les personnes ayant besoin d'une aide humanitaire, alerte l'ONG. La dévotion mariale au cœur de cette deuxième semaine de l'Avent, entre Solennité de l'Immaculée Conception dimanche dernier et Notre-Dame de Guadeloupe célébrée demain. C'est précisément le jour de l'Immaculée, alors que le monde avait les yeux rivés sur la réouverture de Notre-Dame de Paris, que l'annonce d'un nouveau miracle est venue du sanctuaire de Lourdes. Ce 71e miracle concerne la guérison d'un soldat britannique, John Traynor, grièvement blessé pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est entièrement rétabli après une visite à Lourdes en 1923, mais la reconnaissance vient d'avoir lieu, son dossier de guérison ayant été retrouvé dans les archives de Lourdes. Un fabuleux signe d'espérance, comme nous confie le docteur Alessandro de Francisis. Il est le président du bureau des constatations médicales du sanctuaire.
La patience, après, de temps en temps, nous donne beaucoup de joie. Donc, la première réaction, c'était la joie. La deuxième, c'est l'appréciation, parce que ça, c'est la première fois qu'un évêque d'un diocèse de langue anglaise arrive à la formulation d'un décret de guérison miraculeuse. Cette 71e miracle de Lourdes, c'est le premier d'un diocèse, en provenance d'un diocèse qui parle anglais. Le reste, la majorité française, il y a un petit noyau d'italienne, 8 ou 9, il y a un flamand et un allemand. Donc, habituellement, un évêque, et c'est le cas des autres 70, reconnaît une guérison être miraculeuse d'un quelqu'un qui est vivant dans son diocèse et qui représente un signe, comme les guillemets signes, fin des guillemets, que Jésus a opéré dans les évangiles, les miracles de guérison de Jésus. Dans ce cas, effectivement, c'est un peu un unicum. Je pense qu'il n'y aura pas de suite, d'ailleurs, parce que c'était quelqu'un qui a été toujours considéré un miraculé, qui avait toujours poussé des gens à venir à Lourdes, parce qu'après, il devient brancardier de Lourdes, il revient à Lourdes tous les ans avec son diocèse, et il s'engage dans la vie des activités hospitalières et charitables dans son diocèse. Donc, cet homme a été effectivement un modèle et une incitation à la dévotion et au dévouement à Notre-Dame de Lourdes et à la foi catholique.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Partons à présent au Brésil avec ses manifestations pour demander de la prison pour Jair Bolsonaro. L'ancien président est accusé d'avoir fomenté une tentative de coup d'État après sa défaite aux élections 2022. Ce mardi, des militants de gauche étaient dans les rues pour la Journée internationale des droits de l'homme. Reportage à Rio de Janeiro de notre correspondante Sarah Cozzolino.
Sans amnistie et sans pardon, on veut voir Bolsonaro en prison. José Carlos a créé un personnage d'électeur repenti. Habillé aux couleurs du Brésil, il porte un casque avec des cornes pour symboliser le troupeau des suiveurs de l'ancien président et se cache derrière des barreaux de prison.
Il nous faut une bonne dose d'ironie et d'humour pour faire face à tout ça, mais je pense que c'est peu probable de trouver de vrais bolsonaristes repentis. Ceux qui regrettent ne le revendiquent pas, ils en ont honte.
Même si Jair Bolsonaro est condamné, Monica, militante du Parti des Travailleurs, craint la puissance de son clan.
Il va vouloir placer ses fils à des fonctions importantes pour les prochaines élections. Mais pour ce qui est d'une candidature à la présidentielle, on sent qu'il perd de la force.
À 29 ans, Maïra a été élue conseillère municipale de Rio au mois de novembre, après une campagne où elle a reçu de nombreuses menaces de l'extrême droite.
J'ai vu de façon quotidienne comment l'extrême droite agissait. Extrême droite qui a Jair Bolsonaro pour leader. Laisser en liberté quelqu'un qui a tenté d'orchestrer l'assassinat d'un président est un message dangereux.
Les manifestants estiment qu'il faut continuer à faire pression pour que Jair Bolsonaro et les 36 autres personnalités inculpées à ses côtés soient punis. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
Voilà, et avant de refermer ce journal, cette information, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre hongrois Viktor Orban se sont entretenus ce matin par téléphone pour échanger en particulier sur le dossier ukrainien. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera comme chaque jour à 18h. Vous serez accompagné d'Alexandra Siergan. Très bon après-midi.